Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi doit-on réfrigérer le lait au Québec? Un texte de Mathieu Perrault publié dans la presse du 26 juillet 2026. Question: pourquoi la majorité du lait vendu au Québec doit être gardé au frigo? Au Chili, mon pays d'origine, la plupart du lait est vendu en emballage multicouche. C'est une question de Maria Albornoz. Le lait pasteurisé doit être conservé au froid, mais le lait stérilisé à ultra-haute température, UHT, peut être conservé à température ambiante, explique Alexandre Thibodeau, microbiologiste de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et effectivement, la popularité du lait ultra-haute température est beaucoup plus grande au Chili qu'au Canada, où la plupart du lait vendu est pasteurisé. Citation: le lait UHT est chauffé à une température beaucoup plus grande que le lait pasteurisé et a un goût différent, dit M. Thibodeau. C'est une question d'habitude. Il n'y a pas un lait qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas non plus d'avantage nutritionnel pour l'un ou l'autre. Fin de citation. Le lait UHT est chauffé entre 138 et 158 degrés Celsius pendant quelques secondes. La pasteurisation a lieu entre 72 et 75 degrés pendant 15 à 20 secondes. Le lait ultra-haute température peut durer jusqu'à un an sur les tablettes des supermarchés. Les pays où la consommation de lait est très élevée sont souvent ceux où la part du marché du lait UHT est la plus faible, selon Maria Carlson, responsable de la qualité du lait à la multinationale danoise du lait Arla, qui a fait son doctorat sur le lait ultra-haute température. Citation: dans ces pays, le lait a un taux de roulement élevé dans les réfrigérateurs des entrepôts et des commerces, dit Mme Carlson. La logistique du froid est bien développée. Il n'est donc pas nécessaire de le traiter pour une longue conservation. Alors, il n'y a pas un besoin pour le lait traité à ultra-haute température, conservé à température ambiante. Fin de citation. Maurice Doyon, spécialiste d'économie agroalimentaire à l'Université Laval, précise que le lait UHT a été inventé en Europe après la Seconde Guerre mondiale parce que les installations logistiques de réfrigération avaient été détruites. M. Doyon raconte qu'il y a quelques années, la seule personne qui préférait le lait UHT lors d'une dégustation à l'aveugle de différents laits qu'il avait organisés était d'origine française. Au Canada, la part de marché du lait UHT est semblable à celle du lait biologique, moins de 2%. En comparaison, la part de marché du lait UHT est de plus de 50% en Italie. Pour ce qui est du Chili, la part du marché du lait ultra-haute température est de 80%, selon un rapport de 2015 du Congrès national chilien. Exportation. Madame Carlson a consacré son doctorat à l'Université des sciences agricoles de Suède à Uppsala aux variations de qualité du lait traité à l'ultra-haute température. Citation: l'objectif était de voir si l'origine du lait modifiait sa durabilité. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a peu de différence entre les laits crus de différentes origines. Fin de citation. Des groupes industriels du lait de Scandinavie, notamment le fabricant d'emballages alimentaires Tetra Pak, ont appuyé les recherches de Mme Carlson. Pourquoi financer les recherches sur le lait UHT dans une région où il s'en boit peu? Pour développer les marchés d'exportation, répond Mme Carlson. Il y a une grande demande pour le lait UHT dans le sud de l'Europe et dans d'autres régions. Les producteurs de lait scandinave veulent capturer une partie de ce marché. En plus de la distinction entre lait pasteurisé et lait UHT, des intermédiaires sont apparus. Mme Carlson donne en exemple des laits pasteurisés à 100 degrés qui peuvent durer un mois plutôt qu'une semaine dans les réfrigérateurs. Une autre option, adoptée par les producteurs de lait du Québec, est la microfiltration qui augmente aussi la durabilité dans le frigo. Fin de cette chronique de Mathieu Perrault, titrée « Pourquoi Doit-on réfrigérer le lait au Québec, publié dans la presse du 26 juillet 2026.
Les cinq premiers diplômés en ferronnerie d'art et forge au Québec, et les derniers, un texte d'Ariane Godbout, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir. Avec des pinottes, on a fait des miracles, mais là, on est en train de nous enlever les pinottes, déplore Marc Douanard, président du Conseil des métiers d'art du Québec. Alors que la première remise des diplômes du programme d'attestation d'études collégiales AEC en ferronnerie d'art et forge en mai 2026 devait être une source de réjouissance, la nouvelle est assombrie par la suspension de cette formation et de sept autres AEC en métier du patrimoine bâti, faute de financement. Pourtant, les besoins sont criants dans le domaine. Le patrimoine, c'est une grosse industrie en soi, avec beaucoup de chantiers potentiels, mais avec un gros manque de main-d'œuvre spécialisée pour faire les travaux de restauration ou d'entretien, observe M. Douanard, qui est aussi forgeron de métier. Au Québec, tout métier confondu, on n'est même pas 400 à avoir un niveau suffisant pour intervenir sur les chantiers patrimoniaux, note-t-il. Le problème est tel qu'il figurait déjà dans le rapport annuel de la vérificatrice générale en 2020, qui soulignait l'absence de vision et de stratégie concertée pour répondre aux besoins de conservation du patrimoine immobilier. La solution trouvée par le gouvernement pour remédier au problème à l'époque, la création de 8 AEC en métier du patrimoine bâti, annoncée en grande pompe le 24 août 2020 par Jean Boulet et Nathalie Roy, alors respectivement ministre du Travail et ministre de la Culture et des Communications. Des formations conçues par le Conseil des métiers d'art du Québec, CMAQ, est offerte par le Cégep du Vieux-Montréal, avec l'appui financier du ministère de l'Enseignement supérieur. Des ébénistes, des tailleurs de pierre et des charpentiers se sont notamment instruits auprès d'artisans spécialisés, constituant les premières cohortes de l'histoire du Québec à suivre une formation diplômante dans des métiers traditionnels hautement recherchés. La ferronnerie d'art et de forge s'est ajoutée en 2024. Mais dès la même année, des compressions budgétaires ont mis en péril l'existence de ces formations. Mourir à petit feu. Dans un premier temps, il y a eu des suspensions d'un certain nombre d'AEC au Cégep du Vieux-Montréal, se remémore Marc Douanard. En 2024, des coupes du ministère de l'Enseignement supérieur en formation continue ont poussé l'établissement à retirer de son offre les AEC en métier du patrimoine bâti. On avait de grands défis de recrutement, explique pour sa part Éric April, directeur de la formation continue au Cégep du Vieux-Montréal. Selon lui, les programmes doivent normalement accueillir 17 étudiants pour couvrir leurs frais de gestion. Les AEC en patrimoine bâti n'étaient donc pas viables financièrement pour l'établissement. Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, FDRCMO, provenant du ministère de l'Emploi, a sauvé in extremis les 8 formations qui ont survécu malgré une amputation de 25% du budget initial. À la fin de 2025, le CMAQ a été informé que le renouvellement du financement du FDRCMO demeurait incertain. Parallèlement, Le Cégep du Vieux-Montréal nous a indiqué que le soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur n'était toujours pas reconduit, indique Dominique Poulain, directrice du développement professionnel au Conseil des métiers d'art du Québec. En plus des AEC, un plan d'action élaboré par le CMAQ et le ministère de la Culture visait à compléter le projet de ces formations par une série de mesures. Développer un réseau de partenaires, accroître la visibilité du secteur patrimonial afin de favoriser la relève et faire reconnaître l'expertise des artisans professionnels. Or, en 2024, ce plan a subi une réduction budgétaire de plus de 40%. Depuis, le soutien du ministère de la Culture et des Communications est demeuré à un niveau minimal, note Mme Poulain. Au printemps 2026, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture ont connu une hausse de leur budget qui a respectivement augmenté de 3,7% et de 3%. Une comparaison des documents budgétaires concernant le financement des cégeps permet pour sa part de constater que l'enveloppe globale destinée au AEC et à la formation continue dans la province a diminué de 5,56 millions, passant de 129,36 à 123,8 millions de dollars. Une patate chaude. C'est une patate chaude pour tout le monde, le patrimoine, observe Marc Douanard. Force est de constater que cette remarque s'applique également à son financement. Contacté par Le Devoir, le ministère de la Culture et des Communications a soutenu que les AEC n'étaient pas une de ses prérogatives et que l'augmentation budgétaire de 2026 ne touchait que des secteurs d'activité ciblés. Le ministère demeure toutefois sensible aux enjeux de relève et de transmission des savoir-faire liés au patrimoine, a-t-on ajouté. De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué qu'il revenait au Cégep du Vieux-Montréal de gérer son enveloppe de formation continue, dont relèvent les AEC, et de déterminer quelle formation il offrirait en fonction de ses disponibilités financières. En réalité, 40% de l'argent destiné à la formation continue doit correspondre à des secteurs prioritaires déterminés par le ministère, dont ne font pas partie les métiers du patrimoine bâti. S'il reste toujours sur papier le FDRCMO, l'introduction de nouvelles règles de financement des projets et des restrictions supplémentaires imposées par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale font craindre le pire au CMAQ, qui va néanmoins poursuivre ses démarches pour sauver certaines AEC en métier du patrimoine bâti. C'était les 5 premiers diplômés en ferronnerie d'art et forge au Québec et les derniers, un texte d'Ariane Godbout, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir.
Que reste-t-il de nos États-Unis? Le déclin du rêve américain. Un texte de Caroline Monpetit, paru le 23 juin 2026 dans Le Devoir. Enfant, le journaliste québécois Michel Labrecq rêvait d'être américain. Mais depuis 2024, il ne met plus les pieds aux États-Unis. Son dernier livre, Que reste-t-il de nos États-Unis, l'accompagne dans 60 ans de relations avec notre voisin américain, d'abord en vacances, comme enfant, puis comme reporter pour Radio-Canada à Windsor, ville voisine de Détroit, puis comme envoyé spécial pour diverses émissions d'affaires publiques à la radio de Radio-Canada. Quand j'allais en vacances aux États-Unis, il y avait cette espèce d'idéalisation. Je parle du bonheur d'être sur une plage, de manger de la pizza qui était difficile à trouver à l'époque à Québec. Mais en arrière-fond, il y avait les plages finalement assez polluées. Il y avait aussi la discrimination raciale, dit Michel Labrec en entrevue dans un café montréalais. Cette discrimination raciale, il en a été témoin pour la première fois en 1967. Il accompagnait son père pour une partie de baseball majeure à Détroit quand les violentes émeutes raciales ont explosé. Si on avait été attaqué, je serais peut-être devenu moi aussi raciste, dit-il aujourd'hui. Des fois, ça tient pas à grand-chose, mais moi, j'ai été choqué par ça. J'étais profondément choqué, même si j'habitais un quartier presque complètement blanc dans ma banlieue de Québec, dit-il aujourd'hui. Quand, jeune adulte, je suis allé pour la première fois en Californie, c'était un voyage un peu utopique. Les États-Unis qu'il découvre alors défendent les droits civiques, sont pro-gays. Aveuglé, il perçoit mal à cette époque la fracture sociale, politique, économique qui divise aujourd'hui les États-Unis. Le Far West. En effet, derrière ce vernis, il y avait le Far West, le royaume des self-made men qui domine depuis l'ascension de Donald Trump au pouvoir. Les deux trucs qui m'ont le plus troublé du retour de Trump au pouvoir, c'est d'abord le recul climatique, parce que là, on est à rebrousse-temps. On retourne des années en arrière et l'alliance des oligarques de la tech avec Trump, dit-il. Des États-Unis qui se sont dévoilés au monde au cours des dernières années, Michel Labrec a regroupé les 7 péchés capitaux. L'argent, les prisons, la religion, la polarisation, le sport, les armes à feu et la drogue. Mais celui qui surpasse l'ensemble et décide de tout le reste, c'est l'argent, la valeur absolue américaine. Le plus important, c'est l'argent. Parce que tout le reste gravite autour de l'argent, dit-il. Il y a aux États-Unis un appât du gain qui est insatiable. Cette valeur absolue américaine peut racheter les pires excès. Les Américains sont drogués à l'argent, écrit-il. Dans ce contexte, ceux et celles qui ne s'enrichissent pas finissent par se convaincre qu'ils sont responsables de leur malheur. Il précise d'ailleurs que les Américains pauvres sont les plus pauvres des pays occidentaux parce qu'ils n'ont pas accès, par exemple, à une assurance maladie universelle. C'est-à-dire qu'ils ont le plus petit filet social. Quand on est dans la pauvreté aux États-Unis, on devient vraiment pauvre. L'assurance chômage, ça dure très peu de temps. Un Texas à surveiller. Et il tire de ses incursions en sol américain des conclusions parfois étonnantes. Pour lui, par exemple, l'État du Texas est absolument représentatif de l'avenir des États-Unis. Le Texas va devenir un État où les Blancs, les Caucasiens, vont être minoritaires par rapport aux Latinos, aux Noirs et aux Asiatiques. Et même si, en ce moment, évidemment, l'État est dirigé par un gouvernement que je qualifierais d'extrême droite, avec son gouverneur, Greg Abbott, la plupart des grandes villes du Texas sont devenues démocrates. Dans ce même Texas, on constate d'ailleurs un boom de l'industrie des énergies solaires et éoliennes. Mais il constate aussi une très grande désaffection des Américains pour la chose politique. Je raconte une anecdote qui illustre que Hillary Clinton a perdu la Floride en 2016 parce qu'un paquet de gens ne sont pas allés voter car ils étaient sûrs qu'elle gagnerait, dit-il. Au fil des pages, en croisant tous ces gens qu'il a rencontrés, on comprend que la réalité politique américaine est plus complexe qu'il n'y paraît. Lui-même reste en fin de parcours avec une interrogation. Finalement, la majorité américaine, c'est qui? Mais quand on lui demande ce qu'il reste de ces États-Unis, il répond sans hésiter « la culture ». Il a d'ailleurs placé en exergue de chaque tête de chapitre une chanson américaine qui donne le ton. C'était « Que restait-il de nos États-Unis ?» Le déclin du rêve américain, un texte de Caroline Monpetit, paru le 23 juin 2026 dans Le Devoir.
Pauvre canal Saint-Martin. Un texte de Mario Girard, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Juin 1994. Les roulettes des valises glissent sur le terrazzo de l'aéroport de Mirabel. On cherche le panneau des départs. Paris, Corsaire, 21h10. Tout est beau. Mon chum et moi mettons en suspens nos carrières pour une année. Lui, pour écrire un ouvrage sur le droit des Autochtones. Moi, pour suivre des cours en histoire du théâtre. À moi les longues dissertations des professeurs soporifiques sur la présence du fantôme dans le théâtre japonais et shakespearien. À moi les amphithéâtres bondés et mal chauffés de la Sorbonne. Youpi! On a l'insouciance et la soif de vivre de la trentaine. On a surtout une grande envie de changer de décor. Nous sommes gâtés. Un appartement situé quai de Jemap, le long du canal Saint-Martin, nous attend. Il est au 5e, sans ascenseur, au fond d'une cour. Une cristallerie trône au pied de l'immeuble depuis 1890. C'est la dernière de Paris. Tous les jours, à travers les vitres sales, je vois un homme qui répare du verre et du cristal. Des lustres, des coupes ou des vases passent sous ses mains habiles. J'ai toujours pensé que ça ferait un bon sujet de roman. Notre appartement est à un jet de pierre du célèbre Hôtel du Nord. Sur la passerelle courbée, située en face, des touristes reprennent la fameuse scène d'Arletty et Louis Jouvet, alors qu'elle a été tournée en studio. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? À cheval, entre les 10e et 11e arrondissements, ce quartier grouille de petits cafés et de bars tabac typiques. Il y a aussi des marchands délicieusement désagréables qu'il faut séduire. Me voyant palper un melon, l'un d'eux m'a un jour balancé. « Monsieur, le melon n'aime pas ça. » Nous ne vivons pas pauvrement, mais Paris étant Paris, on surveille nos finances. Cela amène mon chum à chanter régulièrement à tue-tête « La bohème et toi qui poses nu ». Ne cherchez pas ces tableaux. Ils sont aujourd'hui à l'index. Au fil des années, j'ai vu ce quartier se transformer, s'embourgeoiser. Aujourd'hui, il est composé de restaurants et de boutiques où l'on trouve des vins oranges et des coffee shops qui propose des matchas biologiques à 12 euros, recommandés par des influenceuses de TikTok. Le soir, il attire des centaines de jeunes qui viennent chiller le long des quais. Depuis le début de la canicule à Paris, les rassemblements ont pris une ampleur sans précédent. D'abord interdite, la baignade a été autorisée pendant quelques semaines avant d'être de nouveau interdite. Qu'à cela ne tienne, on vient quand même faire la fête, causer des incivilités et plonger dans cette eau à la qualité douteuse en laissant derrière soi des tonnes de déchets. Depuis quelques semaines, des employés de la ville de Paris aspirent des détritus qui flottent sur l'eau. D'autres, chargés de nettoyer les trottoirs, repoussent des canettes et des bouteilles de plastique vers le canal avec leur pulvérisateur à jet. Superbe contradiction. Parfois, un cadavre refait surface. On en a découvert deux au cours des derniers mois. Les scènes de barrage se font de plus en plus nombreuses la nuit. Les propriétaires, particulièrement les anciens, sont complètement exaspérés. De lieu bucolique, qui appartenait à tout le monde, le canal Saint-Martin s'est sérieusement déglingué. Il est aujourd'hui assiégé. Comment expliquer une telle transformation? L'équation peut ressembler à ceci. Intérêt de la part d'investisseurs plus arrivée massive de nouveaux propriétaires plus montée des valeurs plus embourgeoisement plus buzz dans les médias plus envahissement de visiteurs ou de touristes plus perte de cohésion sociale plus disparition de l'esprit communautaire. Voilà comment on assassine le charme. La pire des choses qui peut arriver à un quartier enchanteur est que des réseaux sociaux, en grande partie responsables des effets de concentration dans le surtourisme, décrètent qu'il est le plus cool de la planète. Ce qui arrive au canal Saint-Martin est le drame d'une foule de lieux publics dans le monde. Il faudra s'y faire. Ces endroits où l'on se sent seul au monde deviendront de plus en plus rares au cours des prochaines décennies. Frappés par les buzz, leur attrait sera anéanti par des foules inconscientes qui ne savent rien du pouvoir de la beauté tranquille sur l'être humain. Si vous connaissez un endroit où vous vous sentez bien, de grâce, n'en parlez pas. Gardez ça pour vous. C'était « Pauvre canal Saint-Martin », un texte de Mario Girard, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.